Europe Midi.
Romain Desarbres.
Merci d'être avec nous dans Europe Midi. Chacun son tour depuis ce matin et jusqu'à cet après-midi, la fin d'après-midi et demain encore, les chefs de parti représentés à l'Assemblée nationale sont reçus par le président de la République qui cherche une solution pour gouverner. Comment Emmanuel Macron va-t-il pouvoir s'en sortir ? Comment le pays va-t-il pouvoir s'en sortir ? On en parle avec vous au 39-21 et avec Roland Lescure, porte-parole de la REM de La République En Marche et député des Français d'Amérique du Nord, et avec Guillaume Guérin, président de Loge de Limoges Métropole, vice-président de l'Association des maires de France et président du parti Les Républicains en Haute-Vienne. Voilà, rebonjour à tous les deux. Olivier Faure, le numéro 1 du PS, est en ce moment en train de parler aux journalistes. Il vient de rencontrer le président de la République. Il dit que le président de la République mette des propositions sur la table. C'est en clair ce que disait également Christian Jacob à sa sortie de sa réunion avec le président de la République, Guillaume Guérin.
Absolument. Le président de la République n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Mmh. C'est une déroute pour la Macronie. Certains diront même que c'est le crépuscule de la Macronie qui est amorcé. Aujourd'hui, il va falloir que le président de la République trouve des alliés pour pouvoir réformer ce pays. Et je crois que le chantier est très lourd et très long.
Et tout le monde va négocier, essayer de récupérer quelque chose que...
Ah non, nous ne sommes pas dans la négociation. Nous avons présenté des candidats sur les 577 circonscriptions de France, estimant qu'il y avait une autre voie que la voie de NUPES, la voie de Mélenchon et la voie de M. Macron. Nous n'avons pas gagné ces élections législatives, pas plus qu'aucune autre formation politique d'ailleurs. Et donc nous sommes dans une opposition, comme l'a dit le président Jacob, déterminée. Mais constructive.
Déterminée mais constructive, ça veut dire qu'il peut éventuellement voter certains textes.
Il n'y aura aucune coalition de gouvernement avec M. Macron. Les choses sont claires. Les choses sont très claires. Vous avez peut-être une ou deux personnalités des Républicains qui font entendre une voix dissonante, qui ne sont d'ailleurs pas toujours parlementaires. Mais il n'y aura pas de coalition ni de pacte de gouvernance avec M. Macron. Il y aura des discussions texte par texte, au cas par cas, et nous avancerons nos idées à l'intérieur de ces textes qui seront débattus à l'Assemblée nationale sur des réformes structurantes dont le pays a besoin, notamment la réforme des retraites.
Roland Lescure, les grandes négociations, les grandes manœuvres ont commencé ?
Oui, d'abord, juste, on va en parler pendant des semaines, mais dimanche, c'est ni une déroute ni une défaite. C'est pas la victoire qu'on anticipait, mais on est quand même encore... de loin la première force politique en France. Les Françaises et Français ont donné une majorité au président. Elle n'est pas absolue, elle est relative. Il faudrait juste qu'on évite...
Elle est très relative.
Elle est relative, elle est très,
très relative. Très relative oui.
Elle est très relative, mais elle est là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le gagnant a une responsabilité de faire en sorte que la France puisse être gouvernée. Et cette responsabilité, elle est aussi partagée par les partis présents à l'Assemblée nationale. Donc c'était le devoir du président d'écouter les principaux partis présents pour les entendre sur ce qu'ils souhaitent faire. Si la seule chose qu'ils souhaitent faire, c'est attendre...
Mais le gagnant, est manchot. Enfin, le gagnant n'a pas les manettes.
J'ai vécu pendant 10 ans au Canada des gouvernements minoritaires qui fonctionnent. Ça existe ailleurs. Ce qui est vrai, c'est que ce n'est pas l'habitude de la France.
Non.
C'est arrivé quelques fois, peu de fois. Il va falloir qu'on apprenne à faire ça. Et j'entends bien M. Guérin, mais il y a des réformes d'importance. La première... par exemple celle sur le pouvoir d'achat, sur lequel les groupes parlementaires présents à l'Assemblée, une fois qu'un projet de loi aura été présenté, vont devoir se prononcer. Est-ce qu'ils sont pour ou contre préserver le pouvoir d'achat des Français face à une crise internationale d'ampleur ? Et ça, d'une certaine manière, chacun devra prendre ses responsabilités face à cette crise historique. Donc oui, on va devoir apprendre à fonctionner différemment au Parlement. Le président, aujourd'hui, ce qu'il montre, c'est qu'il est prêt à faire ce pas. Et ensuite, on va voir si les autres partis présents à l'Assemblée le sont. En tout cas, nous, on est prêts à le faire.
Vous voyez le piège qui est en train de se refermer sur vous, pardonnez-moi, Guillaume Guérin des Républicains.
Le président est en train de faire ce pas. C'est extraordinaire comme formule.
Emmanuel Macron a subi
une déroute électorale. Emmanuel Macron vient d'être réélu président de la République par défaut, parce que je crois qu'il faut quand même en parler. Emmanuel Macron a été réélu en ayant choisi son duel. Il a créé Marine Le Pen, il a créé ce duel face à Marine Le Pen, et il a été réélu par défaut en bénéficiant d'un apport de voix de la social-démocratie et des voix de la droite républicaine qui ont voulu éviter un duel, pseudo-duel, entre M. Mélenchon et Mme Le Pen au présidentiel. Donc
M. Macron
a été élu par défaut. Aujourd'hui, il a essayé de jouer une deuxième fois avec les peurs sur ces élections législatives en disant ce sont nos candidats ou les candidats de M. Mélenchon. Le boomerang lui est revenu en pleine face. Et pardonnez-moi de vous dire, M. Lescure, M. Macron ne fait pas de pas vers les autres partis. Il n'a tout simplement pas le choix, puisqu'il lui manque 44 députés pour pouvoir faire passer ses réformes.
Que Monsieur Mélenchon joue à qui perd gagne. Ça fait 5 ans qu'il nous fait le coup. Il perd élection après élection, il nous donne l'impression qu'il a gagné. Mais nous faites pas ce coup-là. Vous avez une 60aine de députés, tant mieux, ça vous permet de peser à l'Assemblée, d'avoir un groupe important, mais la majorité, certes relative, elle est chez nous, et j'espère qu'on va pouvoir
avoir la majorité, il faut 289 députés. Vous en êtes très loin. Voilà.
C'est-à-dire que volonté,
si les autres groupes politiques ne votent pas vos textes, vous ne passerez aucune réforme.
Déroute, il n'y a pas. Victoire relative, il y a, qui nous oblige à composer avec tous les députés de bonne volonté.
Midi 27, restez bien avec nous sur Europe 1. Dans un instant, on sera en direct avec Charles qui nous appelle de Rouen. Faut-il ou non un gouvernement d'union nationale ? Je pense qu'il est nécessaire d'avoir un gouvernement d'union nationale. D'union nationale, nous dit Charles. Pourquoi ? Bah tiens, on va l'entendre dans un instant. La petite pause pub, le flash, et on se retrouve juste après. A tout de suite.
Europe Midi. Romain Desarbres.
Le gouvernement d'union nationale, est-ce que c'est la solution ? Tiens, on en parle dans Europe Midi parce que la situation politique est bloquée. À ce jour, il va falloir faire voter des textes et on ne va pas pouvoir passer 5 ans comme ça. On en parle avec vous, 39-21, et avec Roland Lescure, qui est député des Français d'Amérique du Nord, député LREM, et Guillaume Guérin, qui est chez les Républicains, président des Républicains en Haute-Vienne et président de Limoges Métropole. Charles est avec nous, vous nous appelez de Rouen. Charles, bonjour.
Oui, bonjour à tous, merci de m'accorder ce temps de parole.
Ah ben merci à vous de nous avoir appelés. Vous dites oui, vous, au gouvernement d'Union nationale, pourquoi ?
Alors, bah déjà, j'aimerais clarifier le terme, parce que l'Union nationale, c'est un mouvement politique nationaliste de la fin du 19e, mais si on entend par là une union des forces politiques présentes à l'Assemblée, alors je pense qu'il va être difficile, voire impossible, de mettre en place une union nationale, qui pourtant est indispensable pour gouverner. C'est un peu le paroxysme du « en même temps » auquel on assiste, où après avoir profondément scindé la France pendant 5 ans, et où les gens ont voté à l'extrême, on nous demande de nous unir et d'aller tous ensemble dans une même direction. Bon, je pense qu'on est tous devant le constat que le temps des arrangements de parti est révolu, qu'il est temps de mettre un peu de côté les querelles politiques et d'établir un projet commun, même s'il sera insatisfaisant pour certains, on ne peut pas mettre tout le monde d'accord, mais que ça reflète la volonté de changement qui s'est exprimée dans les urnes à l'occasion des élections législatives.
Un projet commun, vous pensez à un projet, on met tout le monde autour de la table, on met, alors Jean-Luc Mélenchon n'est pas député, il n'a pas voulu se présenter, mais on met les NUPES, les RN, les LR et les LREM, et on se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait pour le pays ?
Déjà, je pense que l'abstention ne peut plus être le premier parti de France. Il faudrait pour ça s'inspirer un peu du modèle allemand, où il y a des divergences politiques, mais elles s'expriment, et elles s'expriment démocratiquement, mais il y a une rédaction d'un projet commun, où tout le monde y va de sa réforme, etc. Certaines sont prises, d'autres non. Mais il y a une volonté de se mettre autour de la table et d'avancer avec un vrai cap bien déterminé. Et je pense que c'est ce qui a manqué pendant 5 ans, c'est qu'il y avait des décisions prises de manière verticale, mais que le peuple l'a ressenti comme étant un système non consultatif, non participatif, où on était face à des faits accomplis, face à des choses imposées qui étaient parfois floues. La direction était floue.
Le cap politique était flou. C'est-à-dire que vous dites LREM, sont des décisions peut-être parfois pragmatiques, mais sans cap politique, sans structure politique.
En tout cas, je trouve que c'est flou. Je trouve que là, aujourd'hui, on ne sait pas quel est le projet d'Emmanuel Macron pour les 5 ans à venir. On ne sait pas dans quelle direction il veut envoyer la France.
Eh bien, dis donc, Roland Lescure, député LREM, vous entendez, Charles, effectivement, il n'y a pas eu une vraie campagne. Il n'y a pas eu une vraie campagne présidentielle, il n'y a pas eu une vraie campagne des législatives. Il y en a une, mais LREM n'a pas fixé un cap extrêmement clair.
Non,
c'est vrai.
Bon, d'abord, Charles dit des choses très justes. Quand l'abstention est le premier parti de France, ça doit tous nous interpeller. Et chercher, je ne sais pas si on aura un gouvernement d'union nationale, vu les prises de parole des uns des autres.
C'est pour lancer le débat.
Exactement,
mais voilà,
je pense que ça lance le débat dans des bons termes. C'est comment on crée du rassemblement, là où on a eu effectivement un pays assez divisé, à la fois à l'Assemblée nationale et dans la rue. Alors, on peut être jugé responsable de cette division parce que majoritaire pendant 5 ans. Mais la réalité, pour avoir travaillé à l'Assemblée de manière très concrète, moi j'ai réussi à faire des deals, comme on dit, à faire avancer des projets de loi avec des communistes, des socialistes, des républicains. Jamais avec les Insoumis, jamais avec le Front National. Ça donne une idée de ce qu'on pourrait peut-être faire pour avancer ensemble. Moi, j'entends le modèle allemand, ce n'est pas le modèle culturel français, mais en tout cas, on peut s'inspirer de ce qui existe ailleurs, de manière à ce que, peut-être pas dans une logique de plateforme commune, vous l'avez dit, je ne suis pas sûr que les partis présents à l'Assemblée soient tout à fait tous réconciliables, mais sur des sujets communs. Moi, je pense que, je le répète, le pouvoir d'achat, c'est un sujet sur lequel je pense qu'on doit pouvoir se retrouver.
Mais ça dure qu'un temps. C'est-à-dire, un coup, on vote avec le PS, un peu de PS, un peu de LR, parce que ça va être compliqué chez LR.
Écoutez, on est dans une... Vraiment, hein, je ne veux pas dramatiser les choses, mais on est face à une situation économique extrêmement incertaine. Et je pense que ce que Charles dit est juste. Il y a un moment où la responsabilité collective doit l'emporter.
Vous nous dites ça, monsieur le député LREM. Tous les députés LREM que j'ai reçus avant les élections législatives nous disent « Regardez, le chômage baisse, on se dirige vers le plein emploi. » Et là, vous nous dites la situation économique est compliquée.
Et la réalité, c'est que depuis 5 ans, le chômage a baissé et a atteint un plus bas depuis 40 ans. Et depuis 5 mois, la guerre frappe aux portes de l'Europe. Donc, il faut être conscient de ces incertitudes, essayer de rassembler sur des projets plutôt que sur un programme, parce que ça, je pense qu'on n'y arrivera pas. On va voir ce que nous disent les chefs de parti aujourd'hui, ce qu'ils disent au président. Mais globalement, je pense que sur des sujets particuliers, oui, ça durera ce que ça durera. Mais essayons au moins de montrer qu'en France, on est capable de travailler ensemble. On l'a fait sur des projets particuliers pendant 5 ans. Continuons à le faire.
Guillaume Guérin, des Républicains. Le piège avant la petite pause publicitaire, mais il est devant vous. Si vous ne votez pas les textes, vous faites de l'obstruction. Et si
Romain, mais ça c'est beaucoup trop facile ça. Aujourd'hui, la majorité présidentielle a perdu les élections législatives. C'est factuel, elle n'a pas de majorité à l'Assemblée. Et donc à partir de ce moment-là, elle essaye de rejeter la faute sur les autres partis de gouvernement en leur disant « si vous ne votez pas avec nous, vous êtes dans l'obstruction ». Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Nous payons l'absence de débat de l'élection présidentielle. Pas de débat, pas de mandat. Un certain nombre d'observateurs de la vie politique avaient prévenu le président de la République, pas de débat, pas de mandat. Et aujourd'hui, on retrouve une France qui est totalement fracturée, avec un groupe RN qui atteint les 90 députés, 89 députés dans l'hémicycle, une France insoumise qui n'a jamais été aussi puissante, etc. etc. Le seul peut-être avantage de cette situation, c'est qu'on va enfin retrouver une Assemblée nationale et un Sénat, un Parlement, qui va retrouver toute son utilité et qui va permettre de dégager des consensus et des compromis sur les textes. Compromis ne veut pas dire compromission. Vous pouvez très bien réformer le pays, texte par texte, sur une majorité d'idées ou sur une majorité de projets. Mais nous concernant, nous n'allons pas être la roue de secours ou la courte échelle à M. Macron et être les supplétifs de gens qui ont à la fois piétiné le Parlement pendant des années, qui ont piétiné les maires. Moi, je suis un élu local, je peux vous en parler. S'il n'y avait pas eu les maires pour gérer la crise Covid, ça aurait été une bérésina totale.
Monsieur
Guérin, il faut quand même se souvenir que ce gouvernement a créé le hashtag « balance ton maire » à l'époque. Les élus locaux en ont pris plein la tête. Donc oui, je crois que Jupiter, c'est fini. Je crois que cette verticalité permanente et ce mépris des oppositions, c'est fini. Et le Parlement va peut-être enfin retrouver un rôle extrêmement important qui doit être le sien dans les équilibres de la Ve République.
Guérin,
et je rappelle
match,
à nos auditeurs qu'aujourd'hui, la formation politique qui a le plus de parlementaires en France, sénateurs et députés confondus, ce sont les Républicains.
Est-ce qu'on peut essayer de regarder vers l'avant, M. Guérin ?
Nous avons un enjeu énorme qui se pose à nous. Nous devons être à la fois responsables, c'est-à-dire ne pas bloquer bêtement et inutilement toutes les réformes qui pourraient être proposées par le gouvernement, mais nous ne pouvons pas devenir demain matin les supplétifs de la Macronie parce que nos électeurs qui ont voté pour nous, c'est qu'ils ne sont pas d'accord avec le président.
C'est une ligne de crête qui va être compliquée. Roland Lescure.
Non mais juste, j'ai entendu les éléments de langage sur la roue de secours. L'idée, ce n'est pas de changer un pneu crevé. On parle de la démocratie française et des institutions qui fonctionnent. On peut refaire le match des 5 dernières années. On peut faire le match des 4 derniers tours des élections où on peut regarder en avant. Les Françaises et les Français, ils ont voté, ils ont jugé, ils nous ont envoyé un message qui pour moi est très clair, qui est finalement assez proche de celui du premier tour d'élection présidentielle. On souhaite qu'Emmanuel Macron soit en charge des affaires du pays et qu'il collabore avec toutes celles et tous ceux qui souhaiteront le faire. Et moi, j'entends dans votre discours, en fait, une partie de ça. Je préfère voir le verre aller au quart plein de votre discours plutôt que le verre aux 3/4 vide. Je pense qu'on peut effectivement collaborer avec des forces.
Le jour où vous admettrez qu'Emmanuel Macron a été élu par défaut, on aura fait un grand pas.
Mais non, mais vous mettez en question la légitimité d'une élection qui elle-même a été pensée par le général de Gaulle.
Je vous dis qu'il a été élu par défaut.
Si je ne m'abuse,
si les électeurs de droite avaient su que M. Papendieke allait devenir ministre de l'Éducation nationale, je peux vous dire que beaucoup n'auraient pas voté pour Emmanuel Macron au premier tour. On a voté pour une pochette surprise. On ne sait pas pour qui on a voté, ni quel est le programme. Et donc ça donne les résultats que l'on a à l'Assemblée nationale.
À l'Assemblée nationale, comme sur les plateaux, en s'écoutant les uns les autres, parce que sinon, je pense qu'on va se retrouver avec une manière de discuter dont les Françaises et les Français ne veulent plus.
Olivier, restaurateur, 48 ans, vous nous appelez de Loire-Atlantique. Vous êtes où à Nantes, Olivier ?
Oui, je suis à Nantes.
Vous êtes à Nantes, en Loire-Atlantique. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette situation politique, de ce gouvernement d'Union nationale? C'est une bonne idée, une mauvaise idée? Je mets ça sur la table, hein. Il y a d'autres sujets, mais le pays, pour l'instant, est quand même politiquement bloqué, hein. C'est la situation à 12h41, hein.
Bah, moi, je pense que ce serait la solution nécessaire. C'est un mal nécessaire, mais notre classe politique n'est pas à la hauteur.
Ah.
En fait, notre système politique aujourd'hui est complètement verrouillé par les partis. En fait, quand vous entendez nos élections locales, comment les gens réagissent? Ils réagissent en logique de parti. En fait, aujourd'hui, nous, moi, en tant que petit entrepreneur, j'ai pas le temps d'attendre 5 ans que M. Guérin, par exemple, moi, je suis plutôt de sensibilité LR, je le dis clairement.
D'accord.
Mais quand j'entends, ce qui me fait appeler aujourd'hui, c'est la réaction de Christian Jacob le soir de l'initiative. M. Jacob a le temps, lui, pendant 5 prochaines années, de savoir si la position sera bonne pour lui, s'il sera peut-être Premier ministre, en se couchant avec sa femme le soir, il se dit quoi? Quel poste je vais prendre dans 5 ans, quand ce sera Barouin, président de la République? Nous, tout ça, on n'en a rien à faire, vous comprenez? Nous, on ne trouve pas de salariés aujourd'hui, vous comprenez? Si les gens, si les LR ne vont pas voter les textes sur lesquels on les attend, la réforme des retraites, la réforme de l'assurance chômage, aujourd'hui, on ne trouve pas de salariés. Et on a des centaines de milliers, des millions de gens qui sont chez eux. Quand on entend, quand on entend M. Guérin dire que M. Macron n'a pas gagné les élections, mais ils n'ont pas gagné non plus. Donc, qu'ils se mettent en travail pour nous. Parce que l'abstention aux prochaines élections, ce n'est pas 40 ou 50%. Ça va être 70. Mais est-ce que ça ne les arrange pas, en fait, un petit peu, l'abstention? Parce que ça fait quand même 25 ans. Moi, j'ai 48 ans. Ça fait 25 ans qu'ils se lamentent sur l'abstention. Est-ce que vous pensez que n'importe quel chef d'entreprise, que ce soit une TPE, une PME ou une très grande entreprise, il peut laisser filer comme ça son activité, ses affaires pendant 25 ans? Non. Ils ont les moyens, ils ont les médias, ils ont le pognon, tout le pognon qu'ils veulent. Ils ont tous les moyens, ils ont le référendum pour faire revenir les gens aux urnes, et ils ne le font pas. Est-ce que ce n'est pas un petit entre-soi bien confortable? On fait semblant de s'écharper à l'Assemblée nationale, et puis après, on est bien content de pouvoir renouveler son mandat.
Si je résume votre message, Olivier, vous dites, en l'occurrence au LR, mais à tous les députés, bossez les gars, au boulot, et votez pour l'intérêt général et accessoirement pour nous, c'est ça?
Mais les LR, vous serez deux à l'Assemblée nationale dans 5 ans si vous ne votez pas les textes qui vont dans le sens des entrepreneurs. Vous serez deux. Vous savez que pour faire pousser les tomates bio dans notre région, un mec qui a 40 salariés, il a 40 roumains. Vous êtes au courant de ça? Et là, vous êtes en train de vous écharper si oui ou non, on va voter les textes? Non, mais arrêtez ça. La politique politicienne, c'est ce qui fait l'abstention. C'est la raison pour laquelle je vous demande si ce n'est pas une volonté de votre part. En plus, faire un gouvernement d'union nationale, si ce n'est pas avec les LR, c'est avec qui? Vous avez entendu les interventions de LFI le soir des législatives? Vous avez entendu Sandrine Rousseau? Vous avez vu le programme de Mélenchon qui veut me donner 1063 € à partir de 18 ans. Mais c'est pas la retraite à 60 ans ni à 65 ans, c'est la retraite à 18 ans. C'est la retraite à 23 ans. C'est ce que font les jeunes aujourd'hui. Ils prennent leur retraite à 23. Dans la restauration, les mecs, ils rentrent, ils sortent, ils bossent 8 jours, ils repartent, ils partent en vacances, ils mangent à tout goût de tout go et ils se déplacent en blablacar. Enfin, là, il y a des choses sur lesquelles on attend, enfin moi en tout cas, et on n'est pas seul, hein. On attend sérieusement que les Républicains votent certains textes. Parce que moi, pour ma part, c'est la dernière fois que je vote Républicain s'ils ne sont pas au rendez-vous. Et je suis un petit commerçant.
Ouais.
Voilà.
Vous seriez tenté de voter qui alors, si ce n'est plus les Républicains?
Oh bah, je pense au centre. Moi, je ne suis pas un extrémiste. Moi, mais par contre, il y a quand même des moyens pour ramener les gens aux urnes et me faire voter. Je sais que j'étais loin, très loin des Gilets jaunes. La seule chose, le référendum, poser les bonnes questions aux gens sur le pouvoir d'achat, l'insécurité, essayer de ramener petit à petit le réflexe du vote. On a aussi besoin, moi, si j'étais le président Macron aujourd'hui, le président de l'Assemblée nationale, par n'importe quel moyen, je ferais connaître les textes qui ont été votés et non votés par les groupes à l'Assemblée. Je pense très sincèrement aujourd'hui que si Macron proposait la semaine de 30 heures avec 8 semaines de RTT et 15 semaines de congés payés, LFI ne voterait pas uniquement pour pouvoir se projeter dans les années qui arrivent et prendre le poste. On a besoin de savoir qui vote quoi, parce qu'après ça se résume tout simplement à des petits combats de coq sur les plateaux télé en disant « c'est faux madame, nous avons voté » ou alors « on a besoin de savoir qui vote quoi ».
Colère d'Olivier. Merci beaucoup, Olivier, de nous avoir appelé de la Loire-Atlantique. Guillaume Guérin vous répond dans quelques instants. Il y a une petite pause publicitaire. On est obligé, bien sûr. Quelques secondes, quelques minutes. Et on se retrouve juste après. À tout de suite.
Europe Midi.
Romain Desarbres. Europe Midi, merci d'être avec nous. 12h49, on était à l'instant avec Olivier, restaurateur à Nantes, en Loire-Atlantique, qui nous a appelé et qui s'est adressé à vous, Guillaume Guérin. Il disait, je vote plutôt républicain et je dis aux républicains, faites quelque chose pour nous. Qu'est-ce que vous lui répondez ?
Mais Olivier a raison. Moi, dans mon département, des chefs d'entreprise comme lui, j'en rencontre tous les jours. Aujourd'hui, ce qu'il demande aux républicains, c'est d'être en responsabilité dans l'exercice de leur mandat à l'Assemblée nationale. Mais nous ne disons pas autre chose. Nous disons que nous débattrons avec la majorité, qui n'en est pas une à l'Assemblée macroniste, sur tous les textes.
Et
nous
c'est une majorité, mais qui n'est pas absolue, c'est une majorité relative.
Nous aurons des amendements qui seront portés par notre groupe pour enrichir les textes. Mais on ne peut pas se retrouver piégé, si vous voulez. Encore faut-il, quel est le cap, qu'on en connaisse le cap que va impulser M. Macron. Parce que ça, aujourd'hui, on ne le sait pas. Quelle est la position de M. Macron sur les retraites ? Nous avons été très clairs sur la réforme des retraites.
Bah, c'est 65 ans, peut-être 64. Pour l'instant, on en est resté là.
Là, c'est peut-être dans la Macronie. Mais nous avons un texte qui est très clair, pour lequel nous n'avons pas recueilli la majorité des suffrages des Français, mais nous sommes très clairs. Donc, il y aura des amendements dans le sens pour lequel nous nous sommes engagés sur cette réforme auprès des Français. Donc, nous serons constructifs dans les débats que l'on aura avec la majorité, on l'a dit. Mais encore une fois, et là, pardonnez-moi Olivier de vous dire que c'est très différent d'être constructif texte par texte que d'accepter un pacte de gouvernance avant même de savoir quels vont être les textes qui vont être soumis au vote des députés. Parce qu'aujourd'hui, le piège qu'essaye de nous tendre M. Macron, c'est très simple, c'est nous faisons une coalition, on ne sait pas pourquoi faire, mais vu qu'on a besoin de vos voix après vous avoir piétiné pendant des années, on a besoin de vos voix, donc rentrez avec nous en coalition. Mais pourquoi faire ? Nous, ce que l'on veut savoir, c'est pourquoi faire ? Quelle est la proposition sur la réforme des retraites ? Qu'est-ce qu'on fait sur l'hôpital ? Qu'est-ce qu'on fait sur l'école ? Qu'est-ce qu'on fait sur le monde judiciaire ? Etc. etc. Quelles sont les propositions de l'exécutif en la matière ? Et puis, je vais en terminer là-dessus.
Oui.
Vous savez, moi, je suis un élu local dans une agglomération de 215 000 habitants.
Limoges.
Politiquement,
Limoges,
je suis minoritaire. Et pourtant, je suis président. Moi, j'ai une culture de la co-gestion et de la co-construction. Je gouverne avec 6 vice-présidents de gauche, 6 vice-présidents de droite, 2 vice-présidents en marche. Et ça n'empêche pas d'avoir eu 98% de mes délibérations adoptées à l'unanimité depuis que je suis élu. Je crois qu'on peut trouver des consensus et qu'on peut trouver des compromis politiquement. Mais pas à n'importe quel prix et pas n'importe comment. Et j'entends bien cette petite musique qui consisterait à dire « Les Républicains sont les méchants, ils ne veulent pas donner une majorité à Macron ». Ben non, puisqu'ils n'ont pas été élus sur le même projet.
Bravo. Pourquoi faire dans les scurs députés LREM ?
Non mais bravo Olivier. Oui. Je veux dire, moi j'ai travaillé 25 ans dans le privé et dans le public avant de me lancer en politique à 50 ans. Je ne ferai pas ça toute ma vie. Moi je donne 10 ans de ma vie pour faire avancer la France de manière pragmatique, opérationnelle. Je suis fier du bilan des 5 dernières années. Il a été réélu, mais avec une majorité relative et personne ne le nie. Maintenant, continuons en responsabilité sur des textes de qualité qui feront avancer la France ensemble, tous ensemble. En tout cas, tous ceux qui souhaitent. Je suis très heureux qu'à Limoges ça fonctionne. Moi, je souhaite qu'à Paris, ça fonctionne aussi.
Florian est avec nous. Bonjour Florian, vous êtes infirmier, 29 ans, vous nous appelez de Lyon. Vous dites, selon moi, la vraie question est-ce faisable ce gouvernement d'union nationale ? Vous n'y croyez pas vraiment, hein ?
Alors bonjour et merci de me donner la parole.
Bonjour
d'abord.
Florian.
Alors,
merci à vous.
Je pense que ça n'est même pas possible. Enfin, une union nationale aujourd'hui, ça voudrait dire qu'on est dans le même gouvernement et donc toutes les semaines dans le même Conseil des ministres, des ministres RN avec des ministres LFI ou NUPS. Et moi, personnellement, je pense que ça n'est pas possible. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que les Français ont envoyé un message aujourd'hui, c'est qu'ils en avaient marre du mépris de l'opposition, du mépris d'un gouvernement qui ne faisait qu'à sa tête, finalement. Aujourd'hui, Emmanuel Macron a une majorité relative et doit écouter l'opposition, va devoir faire des compromis. Et ça ne peut pas faire de mal à la France. Et voilà, je pense que c'est le message en tout cas que voulaient envoyer les Français.
Merci beaucoup Florian de nous avoir appelé de Lyon. Voilà, il va devoir faire des compromis. Ça, de toute façon, il va être obligé. Hein, parce qu'à ce jour...
Je n'achète pas l'histoire du mépris, mais je comprends que certains aient pu le percevoir comme tel. Mais la réalité, c'est qu'on regarde en avant maintenant, qu'on a besoin de gouverner la France vers l'avant, ensemble, et en faisant effectivement des accords, sans doute au cas par cas, et pas des accords de gouvernement, avec tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté. Et il y en a à l'Assemblée, j'en suis sûr.
Une petite question, tiens, Guillaume Guérin des Républicains. On parle pouvoir d'achat. Qu'est-ce qui ferait que votre famille politique vote le texte ? Quelle est la mesure que vous pourriez demander au gouvernement, à la majorité ?
Pardonnez-moi, mais de quel texte on parle ?
Pouvoir d'achat.
Moi, je ne l'ai pas vu encore, le texte.
Moi non plus.
Bon,
on en parle beaucoup.
Le député qui est à côté ici ne l'a pas vu non plus, ce texte, puisque pour l'instant, il n'est pas sorti. Donc, nous allons voir ce qu'il y a
concrètement dedans. Justement, qu'est-ce que vous aimeriez
Soyons très concrets.
Aujourd'hui, il y a des urgences. Bouclier énergétique.
Donc ça, vous êtes pour.
Pour les particuliers comme pour les collectivités. Vous savez, aujourd'hui, les collectivités sont en train d'être ruinées. Elles ne sont plus en capacité d'offrir du service à leur population et ça impacte directement les populations sur les terrains. Donc le bouclier énergétique pour les privés comme pour les collectivités, mesure d'urgence et abaissement du prix du gasoil à la pompe.
Merci à tous les deux. Roland Lescure, tiens, on parle beaucoup de vous pour la présidence de l'Assemblée nationale. Vous avez un commentaire ?
Non, pas de commentaire. On a des postes ouverts, malheureusement d'ailleurs, parce que Richard Ferrand et Christophe Castaner ont été défaits. Je le regrette.
Oui.
Ils vont manquer à l'Assemblée nationale, ils vont manquer à la France. On a nos procédures internes. On a besoin de créer, on l'a vu, du compromis.
Et vous aimeriez être président de l'Assemblée nationale ?
Moi, ce que je souhaite, c'est contribuer vraiment à ce mouvement vers l'avant. On a 5 ans devant nous pour rassembler la France, en tout cas avec tous ceux qui ont de la volonté. J'espère en faire partie, ça c'est sûr.
Voilà. Bon, bah écoutez, c'est pas un non, en tout cas. Merci beaucoup. C'est pas un non, bien sûr. Merci beaucoup, Roland Lescure, député LREM. Merci beaucoup, Guillaume Guérin, président de Limoges Métropole.
Merci à vous.
Et président du Parti des Républicains en Haute-Vienne.
Merci.
12h55. Merci d'avoir suivi Europe Midi. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, bien sûr, dans un instant. C'est La France Bouge avec Elisabeth Assayag. Bonjour Elisabeth et bonne émission.
Merci Romain. À demain pour un nouvel Europe Midi.